Bien le bonjour, chers amis. Vendredi 21 février, déjà le 38e épisode de Sortie de zone. Comment allez-vous? Ici Mario Langlois, flanqué de Philippe Quentin. Bonjour Philippe.
Salut Mario.
Et de Guillaume Lefrançois. Bonjour Guillaume.
Salut Mario.
Lendemain de victoire du Canadien contre les Caps de Washington, juste avant d'aller plus loin, il y a un certain étonnement à la suite de la victoire. Parce que le but a pris tout le monde par surprise, les descripteurs de tous les réseaux impliqués dans la description et la diffusion du match, les spectateurs qui se disaient peut-être encore une fois le Canadien perd l'avance, mais non, c'est pas comme ça que ça a pris fin.
Domi reprend la rondelle, remet dans l'enclave, tire de Sherrod, arrêt du gardien.
Non, il a marqué.
Il a marqué! La lumière n'a jamais allumé derrière le gardien. Ouais. Ben Sherrod donne la victoire aux siens.
Alors, vous avez constaté la surprise. Même en regardant la télévision, c'était pas clair. On a vu la mine de dépit, finalement, du gardien adverse qui nous indiquait qu'il s'était passé quelque chose.
C'est le seul dans l'aréna qui le savait, je pense.
J'ai l'impression que la rondelle s'est logée dans l'espèce de entre le filet et le truc, le coussin, je pense.
Mais Danny, c'est pas un ancien gardien de but, Danny?
Il l'a vu. Lui, il l'a vraiment vu venir, en effet. Bon, comme quoi, il n'y a jamais moyen de satisfaire tout le monde. Là, on entre dans ça. Là, ils ont gagné contre Washington à Washington, mais là, pourquoi gagner quand c'est le temps de couler au classement? Mais je trouve que c'est une réflexion peu fructueuse, parce que tu peux pas demander à des joueurs sur la glace de jouer pour perdre. Honnêtement, c'est correct de peut-être émettre des commentaires.
Tu bâtis la mauvaise culture, c'est à
partir du moment où
tu fais ça. De toute façon, il n'y a aucune équipe qui fait ça. La seule chose que je peux voir en ce sens-là, est-ce que c'est plutôt un DG, lui, qui va se dire « ben on va faire plus jouer nos jeunes, on va leur donner de l'expérience ». Puis tant pis pour le résultat, puis tant mieux si on gagne, puis tant pis si on perd, puis au moins il y a cette conséquence-là. Mais ça vient d'en haut, ça vient d'un administrateur froid, mais sur le plancher des vaches, dans le vestiaire, entre les joueurs, l'entraîneur, c'est sûr que tout ce monde-là, peu importe qui est dans la formation, peu importe le classement, c'est l'instinct même du sport, c'est de vouloir gagner tout simplement. Donc, eux vont être aussi contents d'une victoire, même si c'est au 81e match, puis que ça veut plus rien dire.
On l'a senti.
Ouais, puis je pense que la préparation, ça compte pour beaucoup. Puis le Canadien, moi, je comprends qu'on dit qu'ils ont joué un bon début de match à Détroit plus tôt cette semaine, mais il en reste pas moins que t'es pas supposé perdre contre les Red Wings de Détroit. Le Canadien a perdu.
Pas quatre fois, en tout cas.
En tout cas, certainement pas. Puis quand tu... théoriquement, lutte encore pour ta survie. Tu sais, t'es supposé profiter de ces deux points-là qui t'attendent. Mais j'ai l'impression que le Canadien a un petit peu pêché, là, peut-être, par excès de confiance à Détroit. Pourtant, ils n'ont pas une équipe pour pêcher par excès de confiance. Mais je pense quand tu joues contre les Red Wings, dont la fiche est absolument pitoyable, je pense bien que tous les autres clubs pensent que les points et leur
appartient. Comme Washington contre le Canadien hier.
L'inverse. Bon. Je pense que c'est l'inverse qui est arrivé. Les Capitals, clairement, voient arriver le Canadien. Là. Ils se disent, regardez, là, ça va être une soirée pour engraisser nos fiches. Puis
va marquer 3-4,
voilà,
il va battre le record.
700, on va passer une soirée historique. On a été là pour le 600e de Ovechkin. Ça ressemblait à ça là, en première période quand il a marqué le premier but.
Après son 699e. Là.
Ça sort. Puis là, la punition à Drouin tout de suite après.
Tout le monde s'est dit, hey, à quel moment dans le match les gars vont hisser le drapeau blanc puis ça va être le festival Ovechkin. Ça s'est pas produit.
Non. Quand ça a commencé, là, je me souviens, au début du match, on était les journalistes sur la passerelle à Washington, puis il y a un collègue, Arpin Bazou, qui se mettait à regarder au plafond, puis il se demandait est-ce qu'il y a des ballons, des confettis, est-ce qu'il y a quelque chose qui va tomber de là pour le. Puis on était à ce point-là convaincus là, qu'on allait y assister hier soir à ce moment-là, à ce 700e but-là. Puis ben, regarde.
Non, c'est pas,
il y en a manqué un.
C'est pas arrivé. Ouais, c'est ça, exactement. Puis tu sais, en prolongation aussi, ça semblait être vraiment taillé sur mesure pour lui. Et puis ils n'en ont pas profité, puis le Canadien s'en est sorti avec une victoire. Mais tu sais, évidemment, tu regardes toujours ce qui se passe ailleurs, à Toronto, alors que tout le monde les clouait au proverbial pilori en début de semaine. Ben, ils sont venus très fort hier. Une belle victoire contre les Pingouins.
Les Pingouins 4-0 sur la route.
Ils se sont vengés.
C'était un match aller-retour. En fait, ils avaient subi le même sort à maison à peu près.
Par contre, Floride a perdu. Alors ça, mais tu sais, Floride est encore devant le Canadien. Il y a des matchs en main. Buffalo aussi. Alors,
c'est ça le problème quand tu cours. Quand t'es si loin que ça dans le classement, c'est que tu cours pas juste après une équipe, tu cours après deux, trois équipes. Donc, il y en a une qui perd, l'autre gagne. Ben, tu fais du surplace. Puis, c'est ça qui se passe avec le Canadien depuis plusieurs semaines.
Honnêtement, là, qu'une équipe qui a perdu 2 fois 8 matchs consécutifs et 1 fois 5 matchs consécutifs que mathématiquement, on discute encore peut-être d'une possibilité illusoire, mais quand même, possibilité, c'est quand même spécial. Là. Ça ouais. veut dire que tu peux perdre bien des matchs pour faire des séries.
Des longues saisons.
C'est des longues saisons, c'est terrible. Et là, c'est toujours un week-end intriguant, les gars, quand on arrive à ce moment-ci de l'année. Là, on est sur le point d'amorcer le dernier droit. On est à quelques jours de l'heure, date limite des transactions.
La date,
la fameuse date. On va voir comment ça va se passer pendant le week-end. Une transaction à venir jusqu'à maintenant pour Marc Bergevin. Il a laissé aller Scandella. Est-ce que ça annonce qu'il est prêt à en laisser aller d'autres? J'ai l'impression que c'est comme ça que ça va se passer. Nécessairement?
Des gars
en fin de contrat, je veux dire.
Ben, c'est ça, exactement. Des gars en fin de contrat, oui, peut-être. Mais encore là, je pense que l'important dans un cas comme ça aussi, c'est connaître les intentions du joueur et de ton côté de savoir c'est quoi tes propres intentions par rapport à lui. Dans le cas de Scandella, je pense qu'on a fait le calcul que, ben, premièrement, il rapporte un choix de deuxième tour. Je pense que c'est difficile de lever le nez là-dessus. Là, c'est un choix de deuxième tour, c'est quand même tout un retour là, pour ce que Scandella est comme joueur. Donc ça, c'est une chose.
Il ne peut pas dire non à ça.
Ben, je pense que...
Même s'il envoyait peut-être un signal à ses joueurs actuels qu'il abandonnait, je ne sais pas si ça a pu être interprété comme ça à quelques heures du match. Contre les Red Wings plus tôt cette semaine, les gars?
Oui, mais en même temps justement, on en parle. Ils ont connu, le Canadien a joué deux très bonnes périodes à Détroit. Je pense pas que le Canadien est sorti comme une équipe qui était abattue de voir un vétéran se faire échanger. Donc moi, là-dessus, j'ai tendance à croire que non. Mais c'est ça. Donc, tu sais, là, c'est sûr que les deux autres principaux noms, je pense, dans les locations à court terme, c'est Nate Thompson et Ilya Kovalchuk.
Ouais, mais ça envoyait quand même un signal. Je pense que Bergevin comprend la situation, là, puis que l'accès aux séries éliminatoires, là, ouais, c'est ça, c'est terminé ces espoirs-là. Parce que si tu as une chance encore vraiment mathématique, mais plus qu'une chance mathématique, une chance réaliste de participer aux séries, tu gardes Scandella. C'était l'objectif en début de saison, c'était de participer aux séries. Si t'es à 3 points d'une place aux séries, ben tu te dis regarde, on garde notre équipe, puis on essaye de donner une dernière poussée. Là, c'était pas le cas. Et moi, je pense que ça doit ouvrir la voie à d'autres transactions. Maintenant, c'est toujours difficile de dire est-ce qu'il va en avoir ou il va en avoir une, parce que tu sais jamais quel est l'offre, puis quel est le retour potentiel. Mais j'espère une chose, et j'imagine que ça va être le cas, mais remarque, je suis pas sûr, c'est que j'espère que Bergevin va écouter toutes les offres. Puis ce que j'aime pas dans le moment, c'est que quand il déclare publiquement, tu sais, j'échangerai pas Price, j'échangerai pas Weber, ou le laisse entendre, en tout cas, selon des commentaires qui nous parviennent. Je garde tous mes jeunes, je bouge pas avec ça. Tu sais, je trouve qu'il se met beaucoup de menottes. Tu sais, tout à coup, il va falloir qu'il examine les propositions, parce que cette équipe-là, là, dans le moment, là, c'est difficile de dire, de voir une prochaine saison beaucoup plus enthousiasmante que celle-ci. Là.
Mais tu me permets de te rappeler quand même qu'il avait dit qu'il n'échangerait pas Piqué.
Ouais. Tu sais, des fois, c'est pas...
J'ai une déclaration que j'ai gardée de Marc Bergevin de mon entrevue de début de saison que je peux pas tout dire, je peux pas rien dire. Ouais. Je veux dire, honnêtement, ce qu'il dit... Honnêtement, ça a presque aucune ou peu d'incidence sur ce qu'il fait.
T'as raison.
Je veux pas être plate, mais c'est ça quand même.
Je suis un peu d'accord avec ça. Puis, d'abord, quand Bergevin dit ces choses-là publiquement, souvent, il a pas le choix. Je veux dire, il pourrait pas arriver puis laisser planer un doute, par exemple, sur l'avenir de Shea Weber ou de Carey Price avec le Canadien. Ça deviendrait, on l'a vécu avec Pacioretty dans
lui,
le temps. Ouais. Ça deviendrait une tempête et un zoo. Donc, publiquement, il peut pas. Ensuite de ça, quand ces informations-là coulent et sortent sous une source anonyme, ben là, dans ces cas-là, tu te dis, OK, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est simplement des messages envoyés pour activer le marché, pour faire monter les prix? Bon, tu sais, on l'avait entendu parler au sujet, j'oublie au sujet de quel joueur, j'ai un trou de mémoire, mais une information était sortie comme quoi que Marc Bergevin disait tel joueur, non, il n'est pas échangé. Mais en même temps, si tu es un DG et que tu veux aller chercher ce joueur-là en question et que tu entends il n'est pas échangé, ben tu te dis OK, qu'est-ce qu'il s'est fait offrir? On va peut-être y offrir plus. Puis bon, c'est de la négociation, là aussi.
Puis il y a des communications privées entre ces dirigeants-là. Alors, ce qui sort dans les médias, parfois, peut-être, ça peut les aguicher. Peut-être que des fois, ils ont une communication privée. Je reprends un autre dossier pour aller dans ce sens-là. Les offres hostiles, ça le faisait rire.
Ouais.
Il y a vraiment, il trouvait ça drôle. Et finalement, tout le monde a trouvé ça drôle. Mais, non, mais finalement.
Sauf lui.
Finalement, il y a eu une offre hostile, alors.
Mais j'aurais toujours un doute à propos de cette offre hostile-là sur lui, son véritable
désir.
D'aller dans cette direction-là. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y a eu de la pression de la part de son patron pour que ça bouge un peu, parce que je me souviens de la conférence de presse où il a annoncé l'offre hostile juste avant que les Hurricanes annoncent le lendemain leur décision. Et, tu sais, c'était pas un gars de bonne humeur qui est venu rencontrer les médias. Là, ça semblait, il ressemblait à un gars qui s'en allait une visite chez le dentiste avec trois, quatre plombages d'un bord et deux de l'autre. Il n'avait pas l'air de bonne humeur. Là, j'ai toujours eu un doute là-dessus. Mais moi, je trouve que chez le Canadien à l'heure actuelle, là, des joueurs intouchables. T'sais, puisqu'au fond, c'est ça. Là, quand on regarde ça, je te lisais ce matin, Guillaume, tu fais un plaidoyer super intéressant sur Thomas Tatar, puis tu dis, ben, si on le laisse aller, ça va être qui va prendre sa place l'an prochain? Puis je comprends tout ça, mais moi, je pense qu'à quelque part, l'équipe, cette année, avec Thomas Tatar, avec tous les joueurs que tu veux, il n'y a pas de résultat. Il n'y en a pas eu la saison dernière non plus. Tout à coup, tu te dis, coudonc, est-ce qu'on va tout le temps garder ces gars-là? Parce que est-ce qu'on peut descendre beaucoup plus bas qu'on est à l'heure actuelle? Moi, je pense que ça va prendre de la fraîcheur, ça va prendre du renouveau, puisqu'à l'heure actuelle, c'est à peu près la même équipe. Cette année, là, on le voit, c'est à peu près la même équipe que l'an dernier. On voit les résultats. C'est la même chose l'an prochain, ça ira pas mieux.
Mais je sais pas dans quel sens tu veux aller en commentaire par rapport à ce que tu vois là, mais je pense pas que tu peux tout faire sauter l'équipe, toutes les structures, puis je trouve que c'est une pensée utopique.
Non, Philippe, je dis pas changer tout le monde.
Faut que tu gardes tes poteaux, faut que tu gardes tes vétérans, faut que tu gardes... Tu sais, il y a quand même là la moitié d'une colonne vertébrale, pareil, quand tu regardes cette équipe-là, quand tu regardes les joueurs. Je suis d'accord avec toi, mais tu peux pas... Puis,
mais es-tu si sûr de ça qu'il y a une colonne, une solide colonne vertébrale?
Ah, solide, mais il y a... C'est parce que tu peux pas rebâtir sans colonne. C'est ça, moi, c'est ça ma prétention. Je pars de là dans l'argument là-dessus, puis je vais le rappeler bien vite encore. Regarde Edmonton, regarde les Islanders, regarde les Leafs de Toronto, les années de misère qui n'ont pas abouti à rien de concluant, malgré quelques-uns des meilleurs joueurs de hockey au monde en ce moment. Ça reste à venir. Alors, moi, je pense pas. Je pense que la culture, tu sais, on soulignait, bon, ils ont battu Washington hier, et on se dit, bon, ben, on peut pas jouer pour perdre. Moi, j'espère que quiconque est au contact de n'importe quelle équipe, même si j'étais à Vancouver, n'importe où, t'apprends gagnant-gagnant, je pense, ou en t'écœurant de perdre un ou l'autre. Ils vont vivre un peu des deux. Mais cela dit, je te dis pas que je dis pas toucher à personne, échanger pas personne.
Je te dis pas qu'il faut échanger tout le monde demain matin, mais tu dis, il y a des équipes qui ont connu des années de misère, là. C'est vrai, mais le Canadien est là-dedans. Canadien connaît des années de misère. Hey, ça va être une ronde éliminatoire en 5 ans. Une ronde éliminatoire en 5 ans. Ça, là, on commence à tomber dans la définition d'année de misère. Alors, le plan du Canadien qui n'a pas fait maison nette, est-ce qu'il fonctionne plus que le plan des équipes qui ont fait maison nette puis qui peut-être qu'ils n'ont pas eu plus de résultats? Mais
Carbo me disait en entrevue cette semaine, au lendemain de la déclaration à Détroit de Claude Julien, j'ai eu l'idée de parler à Carbo, l'affaire de moi et Kirk, on peut pas les jouer à place des joueurs.
C'est super intéressant d'ailleurs.
Merci, ça le fait rire quand il nous entend citer la citation. Ça le fait rire, c'est intéressant. Il dit un gars essaye quelque chose, mais il disait, je lui demande, as-tu confiance encore en ce groupe-là pour l'avenir, tu sais, de la direction en place. J'ai pas demandé de lyncher un nom en particulier. Et Carbo ne me répond, dit, je suis un gars optimiste de nature d'envie, mais quand je regarde le club qu'il y avait puis le club qu'il y a là, je pense que je respecte beaucoup son verbatim, là. Il dit, j'ai de la misère à être optimiste.
Exactement.
Ou à être enthousiaste. Et on peut pas être ben en désaccord avec, je sais pas comment tu regardes ça, Guillaume, là. C'est difficile d'anticiper l'avenir à court terme comme quelque chose de très reluisant en ce moment pour le Canadien.
Ben, non, c'est ça, exactement.
C'est même difficile d'anticiper de quelle façon les spécialistes de la com préparent le bilan. Paul Wilson et son équipe avec Jeff Molson, Marc Bergevin. Qu'est-ce qu'ils vont se préparer à nous dire? C'est pour ça que je m'attends à quelque chose. Tu peux pas juste finir l'année, ou bien, encore une fois, comme je l'ai prétendu souvent, ils attendent de se rendre au repêchage. Ils vont aller chercher des choix ici et là pour gonfler l'espoir envers ça, mais on y reviendra là-dessus, ce que ça donne.
Mais c'est ça. Mais en fait, c'est vrai que c'est dur de se projeter à l'an prochain puis d'imaginer un club de 100 points, on va dire. Par contre, oublions pas qu'à l'été, depuis quelques années dans la Ligue nationale, là, un club peut changer très rapidement en été. Oublions pas que Marc Bergevin, je pense, a 3 atouts. Qu'il n'y a pas vraiment de joueurs qui peut sacrifier dans son équipe, soit parce qu'ils sont intouchables ou soit parce qu'ils n'ont pas une grande valeur, ben il reste 3 atouts. Il y a de l'argent sous le plafond salarial, ça, Ça, on le sait depuis longtemps, avec des moyens financiers pour aller avec ça. Il y a quand même beaucoup d'espoirs qui ont encore une certaine valeur. C'est pas vrai que tous ces espoirs-là vont devenir des défenseurs top 4, des attaquants top 6, mais il y en a plusieurs qui ont ce potentiel-là et qu'il y a peut-être d'autres DG qui voient ce potentiel-là. Et t'as des choix repêchage. On en parlait, là, mais le dernier compte là, avec la transaction de Scandella. Le dernier compte, il y avait trois choix. Il y avait le choix de premier tour, il y a trois choix de deuxième tour. Ça commence à faire beaucoup. Donc, t'as des atouts quand même qui sont là. Puis après ça, t'as un Max Domi, par exemple. Max Domi qui cherche un nouveau contrat. Au centre, t'as Philippe Dano puis Nick Suzuki. Donc, est-ce que Max Domi va être ton troisième centre de luxe? Combien ça va te coûter? Est-ce que tu le déplaces à l'aile? Je suis pas sûr. Parce que, à l'aile, il a pas montré de grands résultats. Donc, t'as peut-être Max Domi comme autre
comme atout, monnaie d'échange.
Comme ouais. Monnaie d'échange que tu peux passer.
Mais sa valeur a baissé cette année, ouais. Par exemple.
C'est ça, exact. Ça, c'est une chose. Mais en même temps, par contre...
C'est, je veux dire, il y a eu une bonne année, là.
Je dis pas qu'il y a une bonne année, mais t'es dans l'œil de celui qui regarde.
Oui, puis on...
Tu sais, je veux dire, le gars qui va nous échanger de quoi, lui, il veut quelque chose qui manque, puis des fois, quand tu trouves... je sais pas. C'est comme Jonathan Drouin, il a pas une énorme valeur en ce moment, mais peut-être que, mettons, dans un scénario où McKinnon dit à son DG, « Ouais, amène-moi-les », peut-être que là, tout d'un coup, il prend de la valeur, même s'il a presque pas joué de l'année, mais je spécule, là.
Ouais, puis de toute façon, ces questions-là de valeur, je me souviens qu'on pensait qu'Alex Galchenyuk avait plus aucune valeur en 2018. Finalement, il a quand même donné Max Domi qui a donné 72 points l'année d'après. Donc, tu sais, disons que j'ai toujours mes réserves sur évaluer la valeur d'un joueur de l'extérieur. Même Max Pacioretty, j'ai été le premier surpris de voir ce que Bergevin avait pu obtenir de lui avec seulement un an de contrat écoulé, avec deux saisons difficiles qu'il venait d'avoir, avec une trajectoire de carrière là, qui allait pas dans la bonne direction. Puis il a quand même obtenu Tatar Suzuki, un choix repêchage.
C'est peut-être sa meilleure ou une de ses meilleures transactions
Exact. Donc, c'est pour ça que quand on parle de valeur des joueurs, c'est ça, comme je pense, comme tu le dis, Mario, ça dépend de...
Dans quel univers tu jouais? Je prends Kovalchuk, quoique il y en a qui vont dire que sa moyenne de production est sensiblement la même qu'à Los Angeles, somme toute, là, mais il reste que la perception a changé envers lui quand même. Mais parlant de Kovalchuk, tu voulais-tu ajouter quelque chose là-dessus?
Je voulais ajouter quelque chose sur ce que tu as dit avant que Guillaume exprime ses arguments, là. C'est sur le bilan de fin de saison. Tu dis tantôt, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Comment ils vont se préparer? Moi, là, ce que je vois, là, je vois pas pourquoi ça serait différent des autres années. J'ai l'impression que ça va être la même chose. Peut-être un léger mea culpa, mais pas très prononcé, parce que c'est pas dans les habitudes
pas
de la maison.
Pas tout d'autoflagellation.
Non. Après ça, les blessés, moi, je pense que ça va occuper une très longue partie de cette conférence de presse. Ça va revenir continuellement, les blessés.
Il en avait déjà parlé à son début de saison.
C'est comme le terrain est déjà mis. Puis, tu sais, évidemment, les autres équipes en ont eu des blessés, mais ça, on n'en parlera pas. Mais par contre, on va parler des autres bonnes équipes qui n'ont pas participé aux séries éliminatoires. Ça, c'est une recette éprouvée maintenant chez le Canadien. Quand on arrive dans des bilans, on se compare toujours au moins bon. Alors, on dit tout le temps au bilan de fin de saison, tout à coup, de mi-saison, il a parlé du Lightning de Tampa Bay, je pense, de mémoire. Dit, regardez le Lightning, comment c'est difficile cette année, parce que c'était difficile en première moitié de saison. En deuxième moitié, là, au bilan de fin de saison, il parlera pas du Lightning de Tampa Bay, ça, je te le garantis. Mais on peut facilement, il va pouvoir trouver une autre équipe, peut-être les Panthers de la Floride, si les Panthers de la Floride participent aux séries, les Prédateurs. Alors, je m'attends à ce qu'on parle de ça, qu'on compare. Et moi, je pense que ça, là, pourquoi je le rappelle, c'est pas pour ironiser, c'est parce que je trouve que ça s'en vient un problème chez le Canadien. Je trouve que la barre est pas assez haute, puis qu'on compare toujours avec des histoires à non succès.
On nivelle par le bas.
Exactement. Puis ce que je comprends pas, puis que je comprendrai jamais, c'est pourquoi Jeff Molson est aussi agressif dans sa business de spectacle. Comment le groupe de Jacques Aubé puis Devenko, puis ça se bat, puis ça développe des partenariats à gauche puis à droite, puis ça fait des ententes. C'est une entreprise d'une agressivité. Écoute, ils ont pris un immense, pas contrôle, mais en tout cas, ils ont une place extraordinaire dans le domaine du spectacle à Montréal et partout au Québec.
J'ai envie de répondre à ça.
Puis pourquoi dans le hockey, on dirait qu'on se contente de résultats plus modestes. Ça, pour moi, c'est la grande ambivalence du groupe CH.
Moi, j'ai envie de te dire, puis là, je veux pas insulter personne, là, je suis sûr que tout le monde travaille fort, puis c'est difficile. Je pense que c'est plus facile de devenir ce qu'Evenko devient dans le monde du spectacle que de devenir une des 8 meilleures équipes de la Ligue nationale de hockey.
Peut-être.
Je suis convaincu de ça. J'ai aucune hésitation à le dire. ça nous tente pas bien de le dire, puis je pense qu'il aurait pu être meilleur dans les dernières années. Je veux pas cautionner là une certaine médiocrité, pour pas dire une médiocrité certaine, mais clairement, c'est difficile de gagner dans la Ligue. Sinon, comment Edmonton fait pour rater série aussi souvent que ça depuis 2006? Comment que Toronto a fait? T'sais, comment l'Arizona a fait? Comment les Islanders ont fait pour être médiocres aussi longtemps? Comment les Panthers de la Floride ont fait? Et on voit que certaines équipes, quand ils ont des éléments de recette, on voit qu'ils restent dans le top 10, dans le top 15 longtemps. Quand tu réussis à... Quand c'est pas juste un flash, quand c'est pas juste un soubresaut d'orgueil comme l'an passé, puis tu les as même pas faites, mais c'est pas durable. Quand ça repose sur du talent puis une colonne vertébrale, je parlais de colonne, sur une colonne solide, là, tu peux remonter dans ce groupe-là pour une longue période.
Mais moi je t'ajouterais un point, par exemple, sur le parallèle de Philippe avec les autres branches d'Evenco et le Canadien. Le Canadien est une entreprise qui a beaucoup de succès. C'est pas un bon club de hockey, mais en tant qu'entreprise, en connaissez-vous beaucoup des clubs comme ça qui ratent les séries 4 années sur 5, qui ont rien gagné qui ont pas gagné une série depuis 2015, qui ont pas gagné un championnat depuis 27 ans, et puis qui continuent à vendre autant de billets, de chandails, à asseoir autant de téléspectateurs devant les télévisions? Comme modèle d'entreprise, c'est formidable d'être capable de vendre autant.
Ben oui,
t'as raison. Dans un milieu où c'est supposé être basé sur les résultats, sur la réussite, et il n'y a pas de résultat et de réussite depuis des années. Là.
Ils ont une part du mérite, mais les fans ont une part du mérite aussi dans continuer de vouloir adhérer à ça, au prix que ça coûte, on le sait que c'est cher. Puis même les fans qui y adhèrent en écoutant la radio, à la télé, c'est une adhésion quand même, là, même si tu n'investis pas autant que le consommateur qui va au Centre Bell.
C'est une forme de succès pour l'entreprise.
Ben oui, tu donnes du pouvoir à tes codes d'écoute puis à la valeur de ta pub. Fait que c'est important, là, il n'y a pas de petits partisans dans ça, là.
Ben non, c'est ça, exact. Puis donc ça, je veux dire, c'est pour
ils
ça
qu'ils contribuent de toutes les façons.
En termes d'entreprise, je pense que les succès commerciaux du Canadien, je pense que ça s'inscrit dans les succès commerciaux des autres branches du groupe. Mais c'est
le
pas
danger,
parce que c'est une
là,
bonne entreprise que c'est un bon club de hockey.
Si on parle d'hockey, là, juste d'hockey, là, le danger, c'est de s'égarer en chemin. Moi, je pense que veux pas, quand t'essaies, à un moment donné, tu risques de t'égarer en chemin. Parce que ça va pas aussi vite que tu veux, clairement, là.
Ouais.
C'est sûr que, mettons, si on lui demandait, je sais pas s'il le dirait publiquement, si on demandait à Marc Bergevin, en catimini ensemble, dans une discussion privée, dire, c'est sûr qu'on sait pas tout ce qu'il a tenté, puis c'est sûr qu'il y a des affaires qu'il a tenté qui ont pas marché. Heureusement, dans certains cas, je pense à Lucic spontanément comme ça, mais ça indique l'offre hostile à haut. Ça indique un certain niveau de désespoir, honnêtement, par rapport à ce que tu veux faire, parce que t'es pas capable de faire.
Ben, désespoir, oui, mais en même temps, en tout cas, puis là, je parle plus pour à haut que pour Lucic. En même temps, c'est correct aussi d'essayer de montrer ce désespoir-là, si on veut, puis d'essayer d'y aller pour le coup de circuit, parce que ça t'en prend aussi des coups de circuit pour justement relancer ton équipe. Tu sais, puis ça, tu sais, trop souvent, tu sais, Marc Bergevin se fait souvent accuser d'être trop conservateur, de pas oser suffisamment. Donc, tu sais, j'ai quand même un peu de misère à lui jeter la pierre pour ces tentatives-là de circuit. En fait, puis ça se trouve même dans le cas d'AO spécifiquement, oui, la stratégie en soi d'avoir fait une offre hostile, c'était audacieux, c'était...
Mais ce que je veux dire, quand les voies régulières te donnent pas de résultats, t'es contraint d'emprunter des raccourcis ou tenter d'emprunter des raccourcis. Puis quand tu vas sur ces chemins-là, ben la marge d'erreur est significative, là. Et heureusement, compte tenu qu'il n'y a pas tant de joueurs qui veulent venir au Canada comme agent libre, tout ça, ben il n'y a pas eu trop d'erreurs de commises. Puis il y en a eu quand même. Il y en a eu quand même. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, je prends juste par rapport au gabarit des joueurs. Là.
Mm-hmm.
Marc Bergevin est arrivé, voulait grossir son équipe.
Ouais.
Clairement, il a changé d'idée ou il n'est pas capable.
Il l'a essayé au repêchage de 2013, puis ça a donné des résultats très limités, parce que le seul de ces gros joueurs-là, en fait, le seul des joueurs repêchés cette année-là qui s'est vraiment établi à temps plein, c'est Arturi Lehkonen. C'est probablement c'est un des plus petits de la gang qui a repêché cette année-là. Puis, ben c'est ça, Michael McCarron, on le sait, ça n'a pas fonctionné. Jacob Delarose, ben ça a donné un joueur de soutien très, très, très facilement remplaçable. Et Connor Crisp, c'est même pas établi dans la Ligue américaine. Donc... ce désir-là de grossir, ça n'a pas vraiment fonctionné. Puis après ça, on peut dire qu'il l'aurait essayé à date limite des transactions de 2017 en ajoutant, on s'en souvient, Dwight King, Andreas Martensson.
Oui, oui,
même chose, ça n'a pas... donc, disons, les fois qu'il a essayé de grossir l'équipe, ça n'a pas été un succès.
Mais encore une fois, quand je parle de s'égarer en chemin, prends juste les décisions. C'est sûr que ça nous amène à répéter des choses qu'on a déjà dites, mais la façon dont on pensait que les jeunes étaient pour contribuer cette année, la lente réaction à les faire jouer là où ils auraient dû jouer, alors ça, c'est juste l'exemple de cette année, mais quand ça marche pas comme tu veux, t'improvises. Il y a de l'improvisation dans ce business-là. Puis l'image de que Benoît Brunet entretient depuis une couple de semaines, c'est celle du carrefour giratoire, là, du rond-point où on tourne en rond. Puis c'est sûr et certain que c'est pas une mauvaise image. Des fois, quand à la recherche du club gagnant, de la colonne vertébrale, c'est difficile. Mais le noyau, ça te fait rire, là, l'image du carrefour giratoire? Mais,
non? J'imagine juste... J'imagine à Chambly, là, dans le deux, trois ronds-points.
Ah ouais. Tu sais, des fois, tu peux tourner longtemps là-dedans. En tout cas. Mais je regarde aussi par rapport à la promesse du repêchage. Le Canadien a 12 choix, prochain repêchage. Dans les repêchages récents, là, parce que là, les repêchages qui appartiennent un peu plus au passé, le verdict est déjà tombé sur la plupart de ces repêchages-là. Là, ça n'a pas été des grands crus, on s'entend. Un repêchage récent, 2018, le Canadien a repêché 3 fois en deuxième ronde. Ilonen, Romanov, Olofsson. Mm-hmm. Je sais pas, il y en a combien qui vont jouer dans la Ligue nationale. Romanov semble destiné à y jouer. Et on verra un bon défenseur. Point d'interrogation pour les autres. Puis je regardais les fiches de tous les autres. Il n'y a rien de concluant. C'est juste des stats, là. Je suis pas là pour les épis. C'est sûr qu'un défenseur ou un joueur défensif, ça ressort moins dans les stats, mais on en a, ça. <T'sais. Ouais. rire> On en a quelques-uns. Mais donc, tu sais, la promesse là de 3 choix de deuxième ronde, 4 choix de deuxième ronde, on va aller un petit peu plus loin dans un repêchage semblable. Tu l'as évoqué, c'est 2013. En 2013, le Canadien a repêché 3 fois en deuxième ronde. C'est une année où, si ton critère de succès, c'est les gars ont joué dans la Ligue nationale, ils n'ont 4. McCarron, De La Rose, Lekkonen et André Ghetto.
Ouais.
Mais bon, il y en a qui n'auraient peut-être pas joué dans une autre organisation. On les a joués parce qu'on les essaie. On essaie tous les choix. McCarron, on l'a fait jouer parce que c'était un premier choix.
Ben, c'est ça, exact.
C'est ça. Sinon, je suis pas sûr qu'il l'aurait eu au mérite. De La Rose joue encore dans la Ligue. Lekkonen était laissé de côté hier. Puis André Ghetto est parti jouer en Europe.
Alors, ben, c'est ça. C'est qu'il y a personne.
La promesse du repêchage, non, Philippe.
C'est ça. Écoute, ça vaut ce que ça vaut à quelque part. C'est sûr que à chaque année, il y a des sacrés bons joueurs qui vont être issus du repêchage. Mais ça dépend un peu de la cuvée, ça dépend de ton pif. Probablement un petit peu de chance aussi, parce que Bergevin, il l'a souvent dit, puis là-dessus, je suis entièrement d'accord avec lui. On peut pas être en désaccord quand il dit très difficile de prévoir à 18 ans comment un jeune joueur va se développer, à quoi il va ressembler à 20 ans, 21 ans, puis ça, j'en suis. Alors, d'avoir un plus grand nombre de choix au repêchage, ben t'augmentes tes chances d'en choisir au moins un bon. T'sais, c'est sûr que si t'as un choix en deuxième ronde, ben faut pas que tu rates ton coup. Si t'en as 3, ben tu peux peut-être aller en chercher un bon. T'as plus de chances. Alors de ce côté-là, c'est bien. Mais d'un autre côté, t'sais, moi je vois là, on dirait que c'est un concours de qui va avoir le plus grand nombre de choix au repêchage. Puis je regarde ça, c'est bien beau, là. Et tant mieux s'ils gagnent le concours du plus grand nombre de choix au repêchage puis qu'ils choisissent souvent Montréal.
Ça va changer
Montréal.
Quoi dans l'équipe de l'an prochain?
De l'an prochain, puis aussi des
à moins
autres...
que tu t'en sers, Philippe, de ces choix-là pour aller chercher des joueurs.
C'est pour ça que je parlais, moi, des atouts de Bergevin tantôt. C'est que c'est sûr que ces choix-là, tu peux aussi les monnayer pour que ça te serve de quoi. Je me souviens de l'été 2016. Le Canadien avait obtenu 2 choix de deuxième tour pour Larcelaire. Donc, c'est une monnaie qui fonctionne. Et avait donné 2 choix de deuxième tour pour Andrusha. Bon, avait pas donné les choix la bonne année parce qu'il y avait, il restait encore beaucoup de bons joueurs dans ce deuxième tour-là.
C'est l'année de Samuel Girard, ça?
Ben, exact. De Samuel Girard, d'Alex
Debrincat. Qui est allé au Colorado.
Ben, c'est ça. Donc, tu sais, mais c'est la preuve que ces choix de repêchage-là peuvent être quand même, une monnaie d'échange. Il faut juste que tu t'en serves comme il faut, que tu t'en serves la bonne année et que le joueur que tu obtiennes, évidemment, soit un joueur d'impact. Andrusha a eu un certain impact, mais n'a pas non plus transporté cette équipe-là. Mais d'un autre côté, on peut dire la même chose à Washington. Larcelaire a eu un rôle intéressant avec les Capitals, mais c'est pas lui non plus qui les a transportés.
Mais non, mais
il a eu
un gros impact. Puis c'est un gars
il a trouvé sa niche puis il a gagné.
Il était bon en séries éliminatoires. Puis à Montréal, il avait été bon en séries éliminatoires. Ses meilleurs moments avec le Canadien, ça a été en séries éliminatoires. En 2014, il avait été très impressionnant.
Mais disons, c'est sûr que c'est pas en donnant 2 choix de deuxième tour que Marc Bergevin va non plus relancer son club pour l'an prochain. Je veux dire, au mieux, c'est que ça va t'apporter un joueur de soutien. Ou sinon, ben, c'est 2 choix de 2 avec quelque chose d'autre pour obtenir un joueur.
On peut pas revenir trop longtemps en arrière, mais quand vous ramenez Heller dans la discussion, j'haïs pas ça parce que, tu sais, c'est drôle à dire. Quand tu dis tu tournes en rond, là, c'est que, moi, l'info que j'avais eue, c'est que c'était un gars qui était un peu le souffre-douleur du groupe. C'était pas le gars qui cadrait tant que ça dans le groupe. Sauf que, il a expédié le groupe à l'extérieur. Fait que c'était peut-être lui le bon du groupe. T'sais, non, mais t'sais, je veux dire, dans bonne chaise, là, on peut toujours dire, ah, il se voyait deuxième centre, pas troisième. Puis ça, je comprends, parce que quand t'as pas de façon évidente tant de meilleurs joueurs que ça en avant de toi, ben tu veux jouer en avant, comme Domi le pense peut-être.
Ben, c'est ça, c'est plus facile d'accepter ton rôle plus, parce que,
quand t'es derrière, t'arrives à Washington. Exact. Tu comprends, t'es troisième.
Et Govechkin, il dit, moi, je préfère jouer avec ces gars-là. T'sais.
Fait que, tu sais, développer une opinion sur ton monde dans une mauvaise hiérarchie, ça peut t'amener à prendre des mauvaises décisions aussi. Puis à un moment donné, en tout cas, on fera pas le passé, on est rendu là où on est.
Non, mais par rapport... c'est une business d'espoir, par exemple. Oui. Pis, il faut falloir que le Canadien trouve le moyen de redonner de l'espoir. Puis là, je trouve que cette année, là, au bilan de fin de saison, ça va être très difficile. L'an dernier, ça avait été assez réussi, parce que le Canadien était venu à ça de participer aux séries éliminatoires. Puis là, il était capable de dire, hey, là, Poehling, hey, il a joué un match, mais quel match? Puis là, l'an prochain, il pourra être là potentiellement toute la saison. Kotkaniemi, oui, fin de saison difficile, mais là, il y a une année
deuxième
en arrière
année.
De la
Exact.
Sauf que là, ils vont arriver quoi? Là? Ils vont nous dire quoi? Là? Ils ne pourront pas nous dire que Poehling, là, c'est super enthousiasmant. Ça va peut-être devenir, il va peut-être devenir bon l'an prochain. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Mais ils ne pourront pas dire au bilan de fin de saison, hey, Poehling l'an prochain, attention, ça s'en vient. Kotkaniemi l'an prochain, attention, ça s'en vient. Fleury l'an prochain, attention. Ça... L'an dernier, ils ont pu dire ça. Cette année, ils ne peuvent plus. Alors là, l'espoir, ils vont nous dire ça avec Caulfield et Romanov.
Ils ont ressemé le doute quant à leur façon de recruter. Et il surfait sur le fait qu'il y a des experts à travers le monde du hockey qui disent que le Canadien a un pool de talent intéressant pour les prochaines années, ce qui, tout à coup, leur aurait redonné une corde de crédit là, de Standard & Poor's. Là, de
A+.
Là, parce que là, tout d'un coup, apparemment, mais tant qu'on les a pas vus en haut, ça tient à quoi ça? Puis je regarde les récents choix. On a déjà des doutes sur le premier, le récent plus haut choix repêchage.
C'est ça qui fait mal. Je pense que ça
fait vraiment mal. Autant lui a été le bouclier l'an passé parce que là, il représentait l'espoir pour en venir à l'espoir. Autant là, ben, il fait partie. On est plus sûr à quelle catégorie il appartient. Ça fait mal.
On est vraiment plus sûr.
Mais... Oui, puis on peut ajouter à ça le club école qui est encore en voie de rater des séries. Là, je compte plus combien. En fait, depuis que Marc Bergevin est là, le club école a participé une fois aux séries. Ça commence à être gênant comme bilan. Puis je comprends que la plupart des meilleurs espoirs du Canadien ne sont pas dans le club école et sont en Europe, sont en NCAA. Je comprends tout ça. Ou sont carrément avec l'équipe comme Nick Suzuki, par exemple, qui a un développement plus rapide. Là. Mais ça reste que ton club école, là, c'est pas là que tu vas nécessairement développer tes futurs joueurs de premier trio, mais t'es supposé avoir des bons joueurs de soutien, par exemple, qui se développent
là. Ouais, puis tu sais, t'as quelques vétérans en plus qui sont supposés calmer tout le monde puis apporter du leadership.
Il a été obligé d'en sortir de la ville, là, à Laval, là, parce que les gars aimaient pas de la manière que ça se passait.
Donc là, tu sais, si ton club école se rend en finale d'association, on va dire, ben ça aussi, ça peut t'aider quand t'arrives le bilan de fin de saison, ça peut t'aider à dire, bon, ben regardez, tu sais,
on s'en va dans la bonne direction.
Les jeunes veulent vivre des bonnes expériences, tout ça. Mais là, on va arriver, puis ben non, Kyle Fleury vivra pas plus de séries, puis Kotkaniemi non plus.
Ça aussi,
plus,
ça fait mal.
Ben exact, ça va...
Kotkaniemi qui a été utilisé à l'aile gauche, semble-t-il, à Laval. J'ai pas regardé, je vais regarder le match de ce soir attentivement, là, mais ça aussi, ça soulève d'autres questions sur sur la façon dont on le développe.
Ouais. La bonne nouvelle, Mario, puis je veux le dire, c'est qu'il y a, il y a vraiment, au moins, là, semble avoir été pris en charge par Joël Bouchard, tu sais, qui a fait de la vidéo avec lui, puis une heure de temps, puis on, tu sais, ça au moins, c'est une bonne nouvelle.
C'est clair, c'est le projet prioritaire, je pense, de Joël Bouchard, là. Ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Donc,
c'est la première fois qu'il y aura l'occasion de travailler avec un véritable espoir de haut niveau de l'organisation. Maintenant, les gars, si vous me permettez, question de voir, puis tu arrives tout juste de l'entourage de l'équipe. Guillaume, tu es revenu, tu étais au
match. J'étais à Détroit et à Washington.
À Détroit et à Washington. Martin a suivi l'équipe, mon ami Martin, notre ami Martin McGuire du 98.5 des amateurs de sport qui est à Ottawa où le Canadien s'est entraîné aujourd'hui. Et pour la première fois, on a le privilège de l'accueillir dans notre balado sortie de zone. Garde tes chaussures, Martin, comment ça va?
Ça va bien, ils sont déjà enlevés les chaussures.
C'est bon. Comment ça se passe, Martin, au lendemain de cette victoire à Washington, l'équipe qui était à Ottawa, puis est-ce que tu sens plus de points d'interrogation dans le front de bien des intervenants, comme c'est le dernier week-end avant l'heure limite des transactions?
Ben c'est drôle, Mario, hein? On commence à avoir des précisions. Puis là, faut lire un peu entre les lignes parce que tout à l'heure, on a parlé à Claude Julien et j'ai carrément posé la question à l'entraîneur si finalement Kovalchuk commence pas à avoir une plus grande valeur pour le Canadien dans l'équipe plutôt qu'une valeur sur le marché, c'est-à-dire ce qu'on pourrait obtenir en retour de ses services. Et la phrase de Claude Julien, c'est « J'ai toujours pensé qu'il avait une très grande valeur pour nous depuis qu'il est arrivé, et surtout depuis qu'on le connaît, qu'on le côtoie, de la façon qu'il se comporte sur la glace, hors de la glace, avec nos jeunes. Je suis retourné jaser de ça avec Nick Suzuki. Suzuki a dit c'est un modèle pour moi. C'est un bon joueur d'équipe ici. Il se comporte bien avec nous autres, les jeunes. Il se comporte bien avec les autres vétérans. Il s'est intégré dans un claquement de doigts avec cette équipe-là. On a essayé d'en savoir plus parce que dans les dernières heures, là, ce qu'on entend, c'est qu'il aurait sur la table une proposition de contrat du Canadien. Là. Ce serait quelque chose comme une année supplémentaire là, aux alentours de 3,5, 4 millions de dollars. Alors, probablement que ces choses-là, quand on écoute Kovalchuk qui nous dit « Je vais jouer le match de demain soir, puis après ça, on verra à tout ça », je pense que cette phrase-là nous laisse croire que la journée de dimanche sera une journée importante pour la suite des choses. C'est-à-dire que si l'offre qui est sur la table est assez intéressante pour Kovalchuk et qu'on arrive à une entente, ben il sera peut-être probablement pas échangé. Mais si, comme Marco Scandella, l'offre qui est sur la table n'est pas assez intéressante pour lui et qu'il préfère aller tester le marché, ben à ce moment-là, il faudra peut-être s'attendre à ce qu'il soit échangé. Mais une précision comme ça, là, je vous dirais qu'aujourd'hui, on commence à voir un peu plus clair là-dedans.
Et dans le cas de Kovalchuk, les gars, en même temps, s'il continue d'être sur le marché, d'entendre ce concert d'éloges, sert à entretenir le lustre sur l'objet peut-être convoité, même si sa production a chuté. C'est une façon de faire valoir, parce que moi, j'y crois à ce que tu as dit, c'est-à-dire à la valeur qui ne se calcule pas sur la feuille de pointage. Et ça, on sent qu'il a décoincé beaucoup de monde dans l'équipe. Sauf que quand l'équipe perd 5 matchs en ligne, même avec lui en uniforme, ben on se rend compte que tu sais, il n'y a pas une personne à lui seul qui peut tout changer ça. Mais est-ce qu'il peut continuer d'être utile? Est-ce que aussi, s'il accepte l'offre de contrat, Guillaume et Martin Philippe est sorti du studio quelques instants, est-ce que ça permettrait à Marc Bergevin d'échanger Tatar, de garder... je te dis pas que c'est une bonne idée, ou échanger Drouin à gauche. Est-ce que vous pensez que d'avoir Kovalchuk une année de plus procure une marge de manœuvre supplémentaire, Guillaume?
Moi, en tout cas, je crois pas que ça devrait influencer les décisions à plus long terme de l'organisation, parce que à l'âge où il est rendu, je pense que Kovalchuk, il a atteint le point où tu y vas une année à la fois. Donc, je pense pas que tu peux gérer des joueurs comme Tatar et Drouin qui peuvent t'en donner encore pour quand même quelques années. Tu peux pas les
non, mais est-ce que tu peux avoir un retour d'eux, là, je pense, si tu les monnaies, là?
Ouais, je serais très hésitant, surtout avec Tatar, que moi, j'ai l'impression qu'on réalise peut-être pas ce qu'il
apporte. Ah non, mais moi, je l'apprécie. Parce que tout le monde parle de lui, mais je spéculais, Martin, toi, là-dessus.
Moi, j'ai l'impression que dans le cas de Kovalchuk, c'est un dossier qui permet d'acheter du temps, Mario et Guillaume. C'est un dossier qui permet d'acheter une année de plus en attendant que Caulfield se rapproche des professionnels, ainsi de suite. Dans le cas de Tatar, moi, je changerai pas d'idée là-dessus, là, puis je pense que ce que j'ai validé autour est encore très solide aujourd'hui, là, 48 heures avant la date limite, 72 heures, dis-je bien, avant la date limite des échanges. Là, j'ai pas l'impression que le Canadien va bouger ni Tatar ni Petrie, parce que la volonté de l'organisation, c'est de rebondir, puis indépendamment de ce qui pourrait être obtenu en service de en retour des services de ces gars-là, je pense pas que ça va amener le Canadien au présent, dans l'immédiat, aux objectifs que semble se fixer la haute direction de l'équipe.
Ben, pis ça, c'est un très bon point, parce que justement, quand tu parles de rebondir l'an prochain, tu sais, si on prend là, les deux meilleures transactions de Bergevin, entendons-nous, là, c'est celle pour Nick Suzuki puis c'est celle pour Philippe Dano. Philippe Dano, ça était vraiment bien tiré, parce que c'était une pure location, c'est-à-dire Dale Weiss et Thomas Fleischmann, deux joueurs purement de location. Ça lui a donné un excellent joueur. Cela dit, Philippe Dano, oublions pas que ça lui a pris deux saisons complètes avant de devenir le Philippe Dano qui est aujourd'hui. Ses deux premières dernières années, Philippe Dano, c'est un joueur de 40 points qui jouait une quinzaine de minutes, qui avait quand même des hauts et des bas. Là, depuis deux ans, on voit autre chose. Mais ça lui a pris deux... C'est long, là, quand même, deux ans. Même chose, Nick Suzuki. Oui, ça a été une transaction formidable, mais Nick Suzuki, oublions pas que pendant une année complète, l'an dernier, il était dans les rangs juniors. Il n'aidait pas le Canadien de Montréal actuellement. Donc, c'est à ça, effectivement, qu'il faut penser quand on parle donc d'échanger Tatar ou Petrie. Oui, le retour peut être intéressant, mais c'est fort possible...
Il va être sur le futur.
Ben, c'est ça. C'est fort possible que ce retour-là n'aidera pas véritablement le Canadien avant 2021.
Mais on s'entend tous pour dire qu'ils veulent être... Moi, en tout cas, je serais surpris qu'ils veulent pas mettre une équipe compétitive l'an prochain sur la glace. Puis, être compétitif, est-ce que ça passe par garder Tatar et Petrie, Martin?
Absolument.
Moi, je pense que
absolument.
Oui, mais à moins d'avoir une offre que tu peux pas refuser, là, tu sais.
Là, ben, écoute, là, Mario, j'appuierais sur ce que Guillaume vient de dire, puis pour que les gens nous suivent bien, là, je veux placer des noms là-dessus pour que les gens aient une image sur ce que Guillaume et moi parlons par rapport à Tatar et Petrie. Par exemple, on raconte que les Hurricanes de la Caroline, qui ont vu leur défenseur numéro un se blesser, là, Hamilton, Dougie, on dit que c'est eux qui frappent à la porte pour Jeff Petrie. Mais est-ce que les Hurricanes de la Caroline offriraient Jacob Slavin aux Canadiens en retour de Petrie? Absolument pas. Ils en ont besoin de Slavin et ils auraient besoin de Petrie dans la même équipe pour avancer. C'est pour ça qu'ils feraient une transaction comme celle-là. Alors, le Canadien n'a pas besoin d'un autre joueur qui évolue chez les juniors, là, à moins qu'on parlerait d'un exceptionnel, mais j'ai pas entendu parler d'un joueur exceptionnel qui traîne chez les juniors et qui appartient à aucune équipe de la Ligue nationale, là, qui pourrait être si attrayant pour le Canadien.
Ben c'est ça, tu sais, ces équipes-là comme les Hurricanes, ben là pour une transaction comme ça, ben tu regardes qui? Tu regardes peut-être Jake Bean, tu regardes peut-être Aiden Fleury, ouais, le frère de Kyle. C'est pas des valeurs sûres, là.
Non.
Même dans 2-3 ans, ça veut pas dire qu'ils vont. C'est sûr que l'an prochain, ils te donneront pas ce que Petrie te donne en ce moment. Puis même dans 2-3 ans, c'est loin d'être sûr. C'est des jeunes, c'est des anciens choix de premier tour, mais même si c'est des anciens choix de premier tour, ça garantit rien. Ça garantit pas qu'ils vont être des top.
Le gros dossier semble impliqué, puis on verra si c'est juste de la fumée puis qu'il n'y a pas de feu. Martin, t'en entends sûrement parler dans l'environnement de l'équipe. Il y a beaucoup de rumeurs concernant l'avalanche du Colorado et le Canadien. Ouais. Même Drager a tweeté qu'il était...
Et Max Domi.
Max Domi. Il y a d'autres noms qu'on entend, mais qu'est-ce que t'entends? Marc Bergevin aurait regardé les deux derniers matchs sur place. Je sais pas si tu vois des gens de l'avalanche dans l'environnement du Canadien.
Oui, il y en avait. Il y en avait. L'avalanche a suivi le Canadien là dans le dernier mois, Mario. Là, on a vu des gens de l'avalanche. On a vu le Lightning qui a été fortement représenté à un moment donné. Mais là, le Lightning a réglé pas mal ses affaires.
Oui.
On a vu les Devils du New Jersey pas mal autour du Canadien. Les Devils vont avoir des trous là bientôt. Ils vont vouloir les combler. Et y a un élément dont on n'a pas fait mention. Et je pense que Mario, dans une de tes émissions ces dernières semaines, t'en as parlé, mais à ce stade-ci, là, quand on parle des transactions puis d'être compétitif l'an prochain, pour moi, là, humblement, je regarde ça, là, puis rater les séries 4 fois sur 5, là, c'est des millions de dollars qui sont laissés sur la table par l'entreprise du Canadien de Montréal. Ça commence à coûter cher, Mario et Guillaume, de rater les séries 4 fois sur 5. Alors, quand on veut être compétitif dès l'an prochain, là, c'est parce que financièrement, ça fait mal. Et financièrement, quand on voit des bancs vides au Centre Bell, quand on voit des propriétaires de loges qui se laissent tirer l'oreille un peu pour renouveler, pour remplir leur loge soir après soir, et ça commence à avoir un impact sur le point de vue financier. Puis moi, je pense que c'est ce qui commence à motiver le propriétaire du Canadien. C'est d'un jour ou l'autre aller chercher un peu de crémage sur ce fameux gâteau.
Mais les gars, ça c'est une idée donc de peut-être d'emprunter un raccourci, Martin, de mettre...
Non, ben moi c'est pour appuyer que tu veux être compétitif l'an prochain, alors tu départis pas de joueurs comme Petrie et Tatar
dans ce sens-là,
qui permettent peut-être d'aller en série l'an prochain, parce que, tu sais, nous autres là, on est là puis on regarde ça de l'extérieur, mais eux de l'intérieur, là, ce qu'ils se disent, messieurs, là, c'est si on n'avait pas eu tant de blessés, là, les livres sont en train de trébucher, là, on serait où si on n'avait pas eu tant de blessés? On sait, là, vous et moi, que il y a bien d'autres affaires qui sont arrivées chez le Canadien, puis qui expliquent ce qu'ils sont, où ils sont actuellement. Mais en même temps, eux, de l'interne, là, ils se disent, et si tout à coup, on se trouvait devant les Leafs de Toronto qui n'arrivent pas à gagner des matchs régulièrement par les temps qui courent, et si tout à coup, on n'avait pas eu ces deux séquences de défaites-là, on serait devant les Panthers. C'est un peu comme ça qu'ils pensent, ces gens-là.
Mais j'espère qu'ils vont penser aussi à pourquoi ils ont perdu deux fois huit matchs de suite, puis pourquoi ils ont perdu quatre fois contre Détroit, pourquoi ils ont perdu contre New Jersey.
On espère aussi. T'sais,
alors, mais je te suis, donc je pense qu'on est tous probablement sur la même longueur d'onde par rapport au fait de garder des bons joueurs. De toute façon, tu veux avoir des références. Quand tu accueilles des jeunes dans ton vestiaire, tu veux qu'ils sachent dans quelle direction regarder, puis que t'es pas gêné de lui montrer c'est qui tes modèles. Ils sont autour, mais ça va. Mais ça t'assure pas de faire les séries l'an prochain, vous le savez.
Non.
Parce que l'an passé, il n'y en a pas eu de blessures, puis ils ont raté les séries. Alors là, maintenant, comment t'améliores ta formation actuelle en gardant tes Tatar, tes Petrie, puis ton ossature, là? Comment tu fais que... Tu sais, parce que là, il y a personne qui peut me dire qu'un des joueurs repêchés à date, incluant Kotkaniemi, va permettre aux Canadiens d'être une meilleure équipe l'an prochain. C'est un gros point d'interrogation. On présume que Suzuki a sa deuxième année. On espère qu'il n'y aura pas ce qu'on appelle le sophomore jinx, là,
la gang de la
deuxième année. On dit, OK, il va continuer à s'améliorer. Mais le reste, là, où tu vas la chercher, ton amélioration? Parce que je sache, là, les joueurs autonomes, sans compensation, viendront pas plus vite à Montréal pour au Canada l'an prochain qu'ils sont venus dans les 15 dernières années. Comment tu t'améliores pour l'an prochain?
Ben, moi, je pense la voie que Marc Bergevin a souvent privilégiée, puis je pense que ça pourrait encore se présenter cet été, c'est les joueurs autonomes avec compensation et la possibilité de faire des transactions pour aller les chercher. Puis ça, dans les dernières années... là.
Échanger des problèmes, qu'on appelle.
Ben, c'est ça, échanger des problèmes. Puis
genre Domi Galchenyuk.
Ben, c'est ça, Domi Galchenyuk, c'en était un. Il a été cherché...
Mais tu bonifies pas, tu changes des trucs, puis t'espères que ça allait mieux que l'autre allait.
Ou Domi pour un défenseur qui est à peu près dans le même groupe d'âge que lui, là. Tu sais, on dit échanger des problèmes, là. C'est vraiment une expression, là. Mais tu sais, s'il y a un joueur qui est bouchonné dans une autre organisation, un défenseur gaucher, droitier, peu importe, puis que, comme on dit chez nous, là, il y a un peu de place à amélioration, puis il y a un bon futur en vue, puis que ça coûte Domi, ben, tabarouette, allons-y.
Ben, mais il n'y a pas de problème, ça, les gars. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est, mettons qu'on s'entend, sans les nommer, mettons qu'on se dit, on a 14 bons joueurs dans cette équipe-là, là. Mm-hmm. Puis que, donc, tu dis Domi est disponible, je le calcule pas dans mon noyau de 14. Le défi, c'est de grimper à plus que 14 joueurs fiables. Et quand t'en changes un pour un autre, reste un point d'interrogation. Moi, je veux dire, comment tu vas bonifier? Tant que tes recrues grimpent pas, puis si t'as pas un poste mérité, c'est difficile de t'améliorer.
Ben, effectivement, ce livre, c'est sûr que ça va prendre la progression des jeunes. Ça c'est évident. Si les jeunes ne progressent pas l'an prochain, je pense que ça va être très, très, très difficile de penser aux séries. Donc, oui, ça va prendre la progression des jeunes, mais ça reste que, dans le cas précis de Domi, c'est que ça permet, quand on parle d'échanger des problèmes, c'est ça, c'est pas tout le temps échanger des problèmes, là, au sens de problèmes
pas
de
des mauvais garçons,
mais c'est ça peut être simplement des problèmes de plus structurels, on va dire. Yoel Armia, ça avait été ça. Yoel Armia, c'est un joueur qui était coincé à Winnipeg parce qu'il y avait, trop de profondeur à l'attaque devant lui. Donc, ça a été ciblé. Marc Bergevin a été le chercher, puis puis c'était ça, c'est un joueur autonome avec compensation.
Il y a un autre dossier, messieurs, qui devient extrêmement prioritaire, c'est le gardien de but numéro 2. Puis ça, on voit pas ça venir, là, mais moi, j'ai l'impression que d'ici lundi, 15h, là, Marc Bergevin puis ses hommes de hockey vont regarder le dossier d'un gardien de but numéro 2. Price joue beaucoup trop. Price devra jouer beaucoup moins l'an prochain, puis encore peut-être moins dans 2 ans. Moi, je pense que les résultats de Caden Primo dans la Ligue américaine nous démontrent que c'est un jeune homme qui a besoin de millages et de millage dans la Ligue américaine avant de venir en faire du millage dans la Ligue nationale. Alors, moi, je pense que c'est un dossier que le Canadien regarde au moment où on se parle, messieurs, pour peut-être aussi faire des petits puis placer des pions pour cet été. Mais tu peux pas passer à côté de ce dossier-là, Mario et Guillaume.
Si, et Philippe qui est de retour.
Si l'équipe est en santé là, l'an prochain, là, puis qu'on revient à ce qu'on était l'an dernier, là, ben l'équipe a manqué les séries par 2 points, puis on se souvient du fameux match que Antiniemi a échappé à Tampa Bay alors que le Canadien menait par 4 buts. Alors, tu sais, c'est, je pense que chez le Canadien, si on veut aller chercher une coupe de points de plus, on veut avancer l'an prochain, puis être de retour en force l'an prochain, puis peut-être en série, ça prend un gardien de but
on
numéro 2.
On a été insouciant.
Ouais.
Absolument.
Mais tu penses pas, Martin, tu penses pas, Martin, que pour la date limite des transactions, que la concurrence risque d'être forte si jamais Marc Bergevin voulait régler le dossier dès maintenant? Parce qu'il y a des équipes qui en cherchent un. Colorado, notamment, Joe Sakic l'a clairement dit, là, il veut trouver du renfort devant le filet, là. Alors, j'ai l'impression
que... Le Canadien n'a rien à lui donner, à part si tu jases de Carey Price. Le Canadien n'a rien dans la discussion pour un gardien de but, pour faire un échange avec le Colorado. Et d'ailleurs, c'est drôle que tu parles des gardiens. J'avais le nez dans toutes les stats des duos gardiens de la Ligue, dans les numéros 2. Puis, un des meilleurs numéros 2 de la Ligue cette année, bien, c'est Pavel Francouz, là, qu'on a sorti de la KHL, un gars de 29 ans, qui est joueur autonome sans compensation. Tu sais, alors, il s'en trouve des gardiens ailleurs sur la planète. Ils sont pas juste dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale comme troisième gardien. Nous autres, on a jeté notre dévolu sur Kincaid. Bon, ils ont peut-être été chanceux. Ils avaient peut-être fait un bon travail de dépistage, mais ça en est un. Il est à 923 d'efficacité. Ça fait une différence à la fin de l'année quand ton numéro 2 gagne 21 parties, les gars, là.
Ouais.
C'est sûr. C'est sûr. Puis là, il y en a trois à New York des gardiens de but. Là, il y a Georgiev qui Alexander Georgiev qui est sur le marché. Là, tu sais, faut que tu évalues un gardien en disant, ben si on va le chercher, qu'est-ce qu'il peut nous donner dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Tu l'évalues un peu comme ça, parce que moi, je pense qu'on est à au moins deux ans d'un primo régulièrement à Montréal.
Kudobin à Dallas, Martin.
Kudobin. Mais là, Kudobin partira pas à la date limite. Lui, l'année.
Moi, je pense que ça va se régler cet été. Celui est en fin de contrat, mais...
2,5, 927 d'efficacité.
Ouais, Thomas Grice, un autre candidat.
Mm-hmm, absolument, ben, c'est ça.
Tu vois, c'est un dossier qui aurait dû être réglé. C'est un dossier qui aurait dû être réglé l'été dernier. Puis l'été dernier, on a pris un risque en allant chercher un gars qui n'avait pas gardé les buts en deuxième moitié de saison, qui n'avait pas eu de succès dans les mois précédents. Et là, on revient, puis c'est exactement la même chose. Puis, tu sais, Martin, toi et Danny, là, combien de fois vous en avez parlé du gardien numéro 2? Je veux dire, des dizaines et des dizaines de fois, parce que c'était clair que c'était vraiment un problème pour le Canadien. Puis l'été dernier, ce problème-là n'a pas été réglé. Le Canadien en paye un prix très important.
Puis en plus, là... Messieurs,
et ça fait mal dès le début de l'année.
Je vous rappellerai qu'on a tourné le dos à Louis Domingue qui était disponible quand même au ballottage là. Je veux dire, tu sais, je pense que demain matin, si vous aviez à choisir entre Louis Domingue et Keith Kincaid, je pense que le choix sera assez facile. Tu sais, je veux pas, comme on dit en bon québécois, je veux pas renoter là.
Mais eux autres ils se disent que Lindgren est aussi bon que Domingue, je pense, dans les circonstances.
Je sais pas, mais Mario, tu sais, Domingue a un peu de millage dans la Ligue nationale, mais indépendamment de ça, là, c'est le je parlais avec Braden Holtby à Washington l'autre jour, puis Guillaume était à côté de moi. Puis tu sais, lui, il se fait pousser par un genou là, qui va probablement prendre
Samson
sa place.
Parce que, yeah,
exactement, parce que les Caps n'auront pas de place pour signer Holtby. Alors lui, là, le ménage à deux, là, il l'a de travers. Lui, le ménage à deux, lui, il dit, on se repose assez. Là, quand tu es fatigué à la fin de l'année, c'est parce que tu n'as pas fait tes devoirs. Mais Holtby, là, il est pas mal plus efficace depuis que le jeune, il pousse dans le dos, là.
Il était 8,96 d'efficacité, Holtby. Alors, comme quoi, parce que, tu sais, quand on regarde, je regardais la fiche de Carey Price, puis je regarde l'incidence que ça a sur ta position de classement comme équipe, puis il n'y a pas toujours un lien très direct. Carey Price est à 910, son équipe est vraiment hors du portrait des séries. Holtby, lui, est avec une excellente équipe, peut se contenter de jouer à 8,96, puis quand même dans le portrait des séries. Mais encore là, tu viens de l'évoquer, il y a un numéro 2 qui vient compenser un peu, là. 16 victoires de la part de ton numéro 2, Samsonov, là. Ça paraît à la fin de l'année, ça. 917 d'efficacité, là.
Ça paraît non seulement pour ces points-là, tu sais, pour ces 32 points-là en question, là, des 16 victoires, mais ça paraît aussi parce que c'est un espèce de cercle vertueux, si on veut. Plus il te donne de victoires, ben, plus tu peux l'utiliser et plus
Pittsburgh,
tu peux l'aménager ton
ben, deux, non, Tristan Fleury, ben oui. Ben,
Boston. Avec Rask et Halak.
Hey, Matt Murray, en tout cas, il y a un très faible pourcentage, je l'ai ressorti lui aussi, mais continue Martin, excuse.
En même temps, là...
903, Matt Murray.
Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez tous les trois, j'aimerais voir un gardien de but dans les deux prochaines années, un gars qui a du métier dans la Ligue nationale, là, qui est capable aussi de temps en temps, de sortir Price de sa zone de confort.
Ouais. Mm-hmm. De challenger un peu.
C'est ça. Tu sais, Price en joue de mauvaise, là. Ben, la game d'après, là, tu mets l'autre. Puis si l'autre joue, puis il gagne, puis il est la deuxième étoile, première étoile du match, puis qu'il blanchit, là, ben, mets-les pour un autre match. Tu peux être sûr que quand Carey Price va revenir devant le filet, c'est un compétiteur, on le sait, là, tabarouette, il va avoir le couteau entre les dents. Puis ça, là, à la fin de l'année, quand on va refaire le breakdown, comme on dit, là, ben, le Canadien va en avoir bénéficié. Moi, c'est ça que je veux voir à Montréal l'an prochain.
Absolument. Puis ça, en plus, pour faire ça, ben, ça te prend aussi, justement, un gardien qui a un certain standing, qui peut avoir un certain respect. Je suis pas sûr que c'était le cas de Keith Kincaid, justement.
Absolument,
mais un numéro 2 éprouvé, comme les noms dont on a mentionné tantôt, comme Anton Hudobin, qui est un des meilleurs numéro 2 depuis quelques années, ben, je pense que ce genre de gars-là, effectivement, a ce standing-là pour défier Price, justement, et pour peut-être le brasser un petit peu, parce que pourquoi pas, ça fait quand même plusieurs années que Price est ménagé de ce côté-là.
Mais lui, ça lui prendrait une petite adaptation, par exemple, parce que justement, il n'est pas habitué à ça du tout. Là.
Il serait temps. Martin, on est sur le point de te laisser filer. Permets-moi quelques petites vites en rafale, là, sans développer trop un quelques mots peut-être, et je te demande de te prononcer sur ce qui va se passer lundi. Est-ce que tu crois que Tatar joue encore pour le Canadien lundi soir?
Absolument.
OK. Domi?
Pas sûr.
Lekkonen?
Oui, il va jouer pour le Canadien.
Cousins?
Je le sais pas.
Drouin?
Je pense que Drouin va être là.
Thompson?
Pas sûr. Je pense que lui, il a augmenté sa valeur, puis il y a des équipes qui veulent avoir ce genre de joueur-là pour aller en série.
Kovalchuk?
Kovalchuk, là, ça serait dimanche, Mario. Si Kovalchuk est prêt à prendre un an de contrat, je pense qu'il va être encore à Montréal.
C'est bon, Martin, j'appelle ça un petit sprint efficace de questions-réponses. Merci beaucoup, mon cher, d'avoir participé.
Ça me fera plaisir lundi de me faire dire que je me suis trompé sur 2-3 affaires. J'ai pas de trouble avec ça.
Non, c'est bien de se mouiller comme ça. Moi, je suis assez d'accord avec toi, Martin. Je pense que c'est une solide lecture.
Ça risque de ressembler à ça. Bonne fin de semaine et on se retrouve lundi, bien sûr, autant aux amateurs de sport que dans Sortie de zone. Et la prochaine Sortie de zone sera mardi parce que lundi, compte tenu des transactions, on s'est dit on va céduler ça mardi, où on aura beaucoup plus de matière. Martin, bonne soirée à Ottawa.
Salut à vous trois.
Bon week-end, merci Martin. Beaucoup. Messieurs, ça vous tente-tu de jouer le même jeu?
Ben oui.
OK. Tatar, ici ou parti?
Ici.
Oui, moi aussi.
Je le vois ici, mais je me demande s'il y a une offre qui est en égo. Tu sais, on parle d'un échange impliquant plusieurs joueurs. C'est sûr qu'eux autres, ils veulent des gars sous contrat. Je vais dire parti.
Bon.
Oh. Je veux dire parti, mais...
Ça met de l'animation dans le débat.
C'est pas un souhait.
Ben, ça dépend contre qui.
Domi. Oui, ça dépend contre qui. Domi?
Moi, je pense qu'il va partir, Domi.
Moi, je pense qu'il va être ici. Et je pense que son dossier va peut-être plus se régler à l'été. Quand je parlais des joueurs autonomes avec compensation, c'en est un. Des situations comme la sienne qui ont le potentiel d'accrocher, c'est souvent plus à l'été, près du repêchage, que ça peut se régler.
Déconnent, les gars? Oh, laissé de côté. Je mentionne Lekkonen parce qu'il était laissé de côté.
Oui, ben, tu fais bien de le faire. Moi, à mon avis, il reste. Et la seule raison pour laquelle... Ben, pas la seule raison, mais une des raisons pour laquelle c'est lui qui a été sacrifié, c'est que les autres joueurs qui auraient pu être laissés de côté, on pense surtout à Will et à Cousins, c'est peut-être des joueurs qui ont des chanceux de partir d'ici à lundi. Donc, je pense que Lekkonen en a pris une pour l'équipe.
Mais, tu sais, Marc Bergevin nous a tellement souvent vanté Lekkonen.
Ah,
en
oui.
plus,
souvent pour lui.
Ouais, puis tu sais, souviens-toi quand tu disais quand le téléphone sonne dans mon bureau, là,
c'est pour
Lekkonen. Tu sais, il avait dit ça l'an dernier, je pense. On va voir si le téléphone va sonner aussi souvent.
Non, mais je pense que l'équipe l'aime beaucoup de toute façon. Puis j'ai pas de problème à ce qu'il garde de toute façon. Donc, non, moi, je pense qu'il va être encore là.
Cousins? Je sais pas s'il y a de l'intérêt pour un Cousins ailleurs dans la ligue. S'il y en a, go.
Ben, je pense qu'il y a de l'intérêt. Pas de l'intérêt à.
Non, mais.
Pas au coup d'un choix de premier tour, là, mais.
Kovalchuk, le signez-vous à 3,5, les gars?
Moi, je serais prudent. Je trouve qu'il a énormément ralenti. Je pense qu'il a été très bon au début. Moi, tu te souviens, Mario, on s'en est parlé une fois, je t'ai fait la comparaison avec Thomas Vanek. Alors, le Canadien a obtenu Vanek en 2014, qui était plus jeune que Kovalchuk. Puis Vanek a eu une très belle contribution à son arrivée, mais plus on a avancé, plus il a ralenti. Puis finalement, en série, c'est 2014, il n'a pas été très bon, puis le Canadien ne l'a pas gardé. Je vois Kovalchuk, je regarde son âge, qu'est-ce qu'il peut apporter? Bon, peut-être, mais je suis loin d'être convaincu. Puis son ralentissement m'étonne moins à l'heure actuelle que la façon dont il a joué au début, que ça m'a vraiment étonné.
Je suis hésitant, moi aussi. En fait, ce que je ferais avec Kovalchuk, ça serait de savoir, premièrement, est-ce qu'il veut revenir l'an prochain? Et si oui, qu'est-ce qu'il veut faire d'ici là? Puis s'il a le goût d'ici là d'aller jouer ailleurs, de toute façon, d'avoir un parcours en série, t'en profites, tu l'échanges, t'obtiens un choix de troisième tour, peu importe. Et puis, ben, tu regardes les choses aller. Après ça aussi, si lui, entre-temps, il continue comme il va depuis 5-6 matchs puis qu'il n'y a pas une grosse fin de saison, ben, toi, en tant que Marc Bergevin, il n'y a rien qui t'empêche d'y repenser aussi. Donc, moi, ça.
Le Kovalchuk qui est arrivé à Montréal pendant 3-4 semaines, il vaut peut-être 3,5 millions, mais le Kovalchuk des derniers quoi, 7-8 matchs, là, pas sûr qu'il vaut 3,5 millions à 36 ans.
Ça dépend, tu sais, je dis toujours, je disais que je vais être cohérent, là, de Kovalchuk à Los Angeles, je disais, ça nous en dit plus sur les Kings que sur Kovalchuk. Mm-hmm. Puis peut-être que sur le long terme, ça nous en dit plus sur le Canadien que sur Kovalchuk. En ce sens que lui, il a apporté au mieux qu'il pouvait, toute l'énergie, toute l'adhésion au système. D'ailleurs, Claude dit, je pense que Claude Julien l'a senti utile pour lui avec un message qu'il avait de la misère à passer aux autres. Alors, moi, je pense que sa baisse de production est aussi le reflet des misères du Canadien. Je n'y mettrai pas tout sur le dos. Mais,
non, non, non.
Mais où je te rejoins, c'est que à 3,5 millions, je trouve que c'est un aveu d'avoir les deux genoux à terre, de le garder à ce prix-là. Tu sais, à 2 millions par année, donne-y des bonus, mettons, pour pogner 3, là. Tu sais, si c'est une présence, au-delà de sur la feuille de pointage, si c'est clairement une présence positive pour tout le monde dans ce groupe-là, ça, moi, j'ai pas accès à ça, là. Eux autres, ils savent. À deux plus des bonnies, je peux vivre avec, mais sinon, échange-le.
Mais je comprends que le chiffre de 3,5 peut faire peur un peu, mais en même temps, 3,5 pour un an,
c'est plus grand-chose
dans
la Ligue nationale.
Si le gars donne 40 points, 3,5 dans un plafond salarial à 82, 83...
C'est pas la fin du monde.
Correct, c'est ça. C'est pas quelque chose qui va menotter une équipe non plus.
Si tu veux faire un véritable essai pour un joueur autonome, garde-toi quand même de la marge sur le plafond. Ils en ont déjà. Mais on le sait, le Canadien devra surpayer s'il veut aller chercher un joueur autonome de qualité. Il va falloir un jour que le Canadien accepte ça, accepte la réalité. Tu sais, là, à l'heure actuelle, c'est comme si on faisait des offres qui sont des offres standards Ligue nationale. Ça fonctionne pas. Il va falloir payer plus. Alors, un jour, il va falloir se garder de la marge
comme
pour
Toronto avec Tavares.
Mention spéciale, là. Hey, vous vous êtes surpassés, les gars,
de
l'écrit dans les
titres.
Oh, Nate! Excuse-moi. Nate s'en va.
Toi, tu penses qu'il s'en va?
Mais pas parce qu'il faut l'envoyer. Je pense qu'il y a une valeur. Je pense que. D'ailleurs, il a fait beaucoup d'équipes. Clairement, il y a beaucoup d'équipes qui l'ont en bonne estime. Mm-hmm. Et je pense qu'il y a une équipe qui va aller en série, qui va vouloir l'avoir. Colorado peut-être en tête de liste pour remplacer Kadri. C'est pour ça que je vois un échange Montréal-Colorado avec Thompson puis un autre. Thompson Domi. Thompson, je sais pas qui. Je vois Thompson là, à moins qu'eux trouvent mieux, là, ça se peut, parce qu'ils magasinent avec d'autres équipes.
Moi, Thompson, en fait, Thompson, ce que je sais, c'est que je le reprendrai l'an prochain à 1 million. Avec une compréhension qu'il ne jouera pas 82 matchs. Mais je veux qu'il soit autour l'an prochain pour 1 million. J'ai aucun problème avec
moi
ça.
Moi non plus.
Alors, vous avez vraiment l'expression joueur de location dans son sens le plus pur. C'est-à-dire une vraie location. Le joueur,
c'est
Kovalchuk. et Thompson s'en va ailleurs deux ou trois mois.
En fait, Thompson, c'est que tu t'assois avec lui
et
tu lui dis, qu'est-ce que tu veux faire d'ici là? Est-ce que tu veux rester ici partir en vacances au mois d'avril ou est-ce que tu aimerais ça aller 2-3 mois quelque part d'autre puis avoir une chance? Puis tu y vas avec ça. Mais c'est sûr que c'est un joueur, moi, que j'essaierais de ramener l'an prochain. Mais tu dis, regarde, tu vas peut-être jouer 40 matchs, mais ça va être utile quand même, puis on ne sait jamais. Puis, il y aurait son rôle. Avec des joueurs en qui on veut développer les mêmes qualités que lui, c'est-à-dire Poehling, Evans, des jeunes comme ça qui s'en viennent, je pense que ça serait très important de l'avoir autour.
Ça serait spécial qu'il y ait une transaction qui ait l'effet d'une bombe, les gars, dans le marché.
Ouais. Mais
on sait jamais, mais ça me surprendrait. Ça me surprendrait.
Les dates limites de transactions sont plus
fortes en spéculation.
Exactement. C'est plus vraiment ce que c'était avant, je pense.
Et les gars, question de replonger dans l'ambiance qui règne autour du Canadien. Permettez-moi d'entendre un petit montage qu'on a réalisé avec Maxime Paquette cette semaine sur des commentaires d'après-match de Claude Julien qui témoignent qu'il y a eu une espèce de jour de la marmotte. Et la question finale, on terminera sur la musique. Est-ce qu'il y a une usure qui s'installe? Y a-t-il moyen de refaire du neuf avec du vieux pour la saison prochaine? Écoutons ces quelques commentaires. Vous allez vous situer là, dans le calendrier. Vous allez voir, on se promène d'octobre à aujourd'hui.
Je travaille avec ce que j'ai, puis ça ne veut pas dire que je ne suis pas satisfait. Tu as eu la réponse déjà de Marc. Je pense qu'on cherche un défenseur gaucher. On n'est pas sharp. Mentalement, là, on fait beaucoup d'erreurs. Là. C'est des erreurs qui deviennent coûteuses. Il n'y a pas un début de saison que tout le monde s'attendait. On parle d'un jeune de 19 ans. On a des vétérans qui sont pas à la hauteur encore non plus. Là. On semble pas vouloir parler d'eux autant qu'on parle des jeunes. Laziness on the part of our forwards in overtime ends up costing us another point. Those guys in their care, they're frustrated. Heck, they don't like what's going on, and neither do we. I mean, I'm frustrated as hell right now.
Tu connais le hockey? Tu sais c'est quoi un commitment? Tout simple que ça.
Claude, comment t'expliques ce sloppiness-là, justement? Est-ce que ça peut
être... Il y a des choses que tu peux pas expliquer, les gars. Vous posez des questions, comment t'expliques ça? Ben, je sais pas. T'as-tu demandé la question aux joueurs? Tu dois aller avec tes meilleurs joueurs, puis c'est pas que Kotkaniemi n'est pas un bon joueur, mais il y a de la difficulté. En deuxième période, on n'a pas patiné du tout. La deuxième, partout sur la rondelle, etc. Mais on n'était pas là du tout, perdait les bagarres. Les rondelles libres, des décisions, pauvres décisions. On ne méritait pas ce match-là du tout. C'est ce qu'on recherche, une équipe qui va jouer de la même façon pendant 60 minutes. Puis on ne semble pas capable de le faire. C'est frustrant, puis c'est pas acceptable non plus. Là.
We needed to play 60 minutes, we played 40. You know, I can't put my skates on and play for them.
Hey, ça a duré à peine une minute, les gars. Je suis épuisé. Imaginez dans la peau de Claude Julien.
Ouais, imagine si c'est celui qui dit ça.
Oh, ça devait pas être facile. Voyez-vous Claude commencer la prochaine saison, les gars?
Ça va être dur. Ça va être dur. Cette équipe-là, il va falloir qu'ils envoient un message de fraîcheur et de renouveau d'une façon ou de l'autre. C'est pour l'an prochain.
C'est presque une annonce publicitaire. Appelle Paul Wilson. D'après moi, tu pourrais l'aider pour le bilan de fin de saison, Guillaume.
J'ai bien de la misère à me prononcer là-dessus.
C'est difficile, c'est pas facile. C'est pas...
Disons qu'il serait peut-être pas le bon bouc émissaire, ou en tout cas, il est loin d'être le seul, ça c'est sûr.
Quand t'as des mauvaises équipes, c'est rarement le bon bouc émissaire pour acheter du temps, puis il faut souvent acheter du temps, fait que je sais pas si ça va finir comme ça pour lui. Messieurs, ce fut encore une fois un grand plaisir. Merci Philippe, bonne fin de semaine.
Salut Mario, salut Guillaume.
Merci Guillaume, bonne fin de semaine. Mario. Merci Maxime Paquette, bon week-end à toi également, et merci à Martin McGuire pour sa participation spéciale, c'était le fun de l'accueillir à Sortie de zone. Et on se retrouve dans le cadre de la balado, mardi des gars, au lendemain de l'heure et date limite des transactions. Ciao, ciao!